Bonjour à tous. Tout le monde m'entend, ça va? Alors, pour moi, c'est la première fois que je suis devant vous pour le message. D'une part, c'est un privilège, d'une autre part, c'est une première. Donc, je vous propose ce matin de vous mettre en mode indulgence. Hein, ça marche? Ok, tout va bien. Je vais aussi essayer de toucher aux manettes pour voir si ça marche. Avant de commencer, j'aimerais juste encore prier. Oui Seigneur, merci pour cette grâce d'être encore ensemble ce matin devant toi, devant ta parole, que tu puisses toucher nos cœurs, ouvrir nos cœurs aussi à ce que tu veux nous dire, que tu puisses aussi nous mettre aussi dans la bouche ce que tu veux dire aujourd'hui, que nous puissions être vraiment devant toi et bénis-nous ensemble. Au nom de Jésus. Amen. On va donc poursuivre dans l'évangile de Marc. La semaine dernière, dimanche dernier, on a parlé sur Marc 7. Vous vous rappelez de la femme syrophénicienne, donc dans le territoire de Tyr et de Sidon. Cette femme qui avait une grande foi, qui a été vraiment testée jusqu'au bout par Jésus. Jésus qui était au début silencieux, il a vraiment testé cette femme. Et Jésus lui a dit à la fin, ta foi est grande. Nous allons poursuivre aujourd'hui dans Marc 8, sur ce même thème de la foi, de cette marche avec Jésus. Alors, donc, voilà un petit peu le titre du message que je voulais vous partager aujourd'hui. Suivre Jésus. Un défi valant la peine d'être relevé. Dans le chapitre 8, alors un instant, dans le chapitre 8, Jésus marche beaucoup. Tout d'abord, il est au bord de la mer de Galilée et il fait encore un miracle avec ses disciples devant une grande foule où il multiplie le pain pour environ 4000 hommes. Ses disciples le suivent fidèlement, partout où il va, que ce soit pour ce premier miracle. Ensuite, il traverse la mer. Donc là, est-ce que vous voyez les flèches rouges? Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, est-ce que le curseur, il marche? Bon, on va pas très bien. Il essaie donc du côté de la mer. Ils vont traverser la mer pour aller dans la région de Dalmata. Dalmanuta, pardon, où là, ils ont une discussion animée avec les pharisiens sur le fait de faire des miracles ou pas. Jésus leur a refusé de leur faire un miracle. Ensuite, ils ont retraversé la mer de Galilée pour aller du côté de Bethsaïda, où là, Jésus a guéri un aveugle. Et durant tout ce périple, Jésus, les disciples marchaient avec Jésus, ils étaient toujours avec eux. Et donc là, ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on rejoigne Jésus et ses disciples à Césarée de Philippe. Donc après avoir guéri l'aveugle, après lui avoir rendu la vue, Jésus et ses disciples sont partis à Césarée de Philippe, dans le nord, dans cette région qui s'appelle Iturée Panias. Juste pour le contexte, cette ville Césarée de Philippe, aux alentours des grandes sources d'eau très abondantes, ce qui a rendu cette région fertile et ce qui a favorisé le rassemblement de différents mouvements religieux, des centres religieux, et donc c'est devenu vraiment un territoire païen, idolâtre, et c'est dans ce milieu-là que se trouvent Jésus et ses disciples. Nous pouvons juste voir ces fameuses sources d'eau près de Césarée de Philippe. Et donc, nous allons commencer à lire le passage dans Marc 8, au verset 27. Et voilà, on va joindre Jésus et ses disciples à ce moment-là, jusqu'à la fin du chapitre. Donc, on va lire ensemble, étape par étape, en trois parties, le parcours de Jésus, les échanges qu'il aura avec ses disciples, jusqu'à la fin du chapitre. Je vous propose de commencer à lire à partir de Marc 8, verset 27. Vous voyez tous, c'est un petit peu grisâtre. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Christ, et j'ai rajouté en rouge, le Fils du Dieu vivant. » C'est donc le passage dans Matthieu 16 qui complète cette réponse. Donc Pierre répondit à Jésus « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus le recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Je remercie le Seigneur aussi d'avoir aussi inspiré mon frère, de vous avoir aussi inspiré dans vos chants, dans vos partages, puisque cela a tellement bien introduit ce que je voulais vous partager ce matin. L'amour de Dieu pour nous, ce qu'il a fait pour nous aussi sur la croix. Et là, nous voyons dans ce passage que les gens qui ont côtoyé Jésus, donc la foule qui a côtoyé Jésus, n'avaient pas vraiment compris qui il était réellement. Ils répondaient Jean-Baptiste, ils répondaient Élie, et on disait donc Jérémie, d'autres prophètes, etc. Parce que les gens, ils avaient une attente de cet envoyé. Ils avaient une attente de ce Messie, autre de ce que Jésus était réellement. Mais Pierre, en tout cas, lui, il avait compris. Dieu s'était révélé à Pierre et donc il a pu répondre du tac au tac à Jésus, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Le Christ, c'est l'envoyé, c'est le Messie, celui que Dieu a envoyé sur terre, le Fils du Dieu vivant, ce qui montre sa pleine aussi divinité. Et je voulais juste qu'on puisse se poser cette question aussi ce matin. Nous avons entendu durant le moment de louange et de prière, tout ce que Jésus a fait pour nous, tout ce qu'il est pour nous. Et voilà, reposons-nous cette question ce matin, comme si Jésus nous posait cette question. Qui suis-je pour vous? Qui suis-je pour nous? Est-ce que Jésus pour nous ce matin n'est qu'une idée ou une option quand tout va mal? Et donc c'est là où on se tourne vers Jésus. Jésus, au secours, j'ai besoin de toi. Est-ce que c'est une vérité que l'on répète d'une manière un peu automatique, inlassablement? Ou est-ce que, au contraire, nous pouvons dire avec une profonde conviction, comme Pierre, tu es le Christ, tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant? Voilà, juste voilà une première réflexion par rapport à aussi cette conviction de Pierre dans ce qu'il a dit. Que nous-mêmes, ce matin, nous puissions nous examiner et que nous puissions aussi nous poser cette question. On va poursuivre maintenant au verset 31. Du verset 31 au verset 33. Et pareil, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais j'ai rajouté en rouge les compléments qu'on peut trouver dans le passage de Matthieu 16, du verset 21 au verset 23. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, encore lui, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et donc là, nous prenons le complément de Matthieu, et Pierre lui répondit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. En étudiant un peu le chapitre 8, ce passage m'a vraiment interpellé. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu le prendre avec vous ce matin. Puisque, quand on voit cette réponse de Pierre, on peut se poser des questions. Pourquoi Pierre a agi de cette manière? Pourquoi Pierre a, disons, même osé reprendre Jésus? Ça nous paraît un peu fou que les disciples reprennent Jésus d'une manière un peu verte, et lui disent « Ah, ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Comme si ils pouvaient savoir qu'est-ce qui allait se passer derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que juste avant, Pierre, c'est lui-même Pierre qui avait donc confessé donc devant Jésus, devant ses disciples, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et pour nous ce matin, quand on voit aussi notre attitude de Pierre, il ne faut pas qu'on jette la pierre sur lui, parce que nous sommes les mêmes, nous sommes de la même nature, nous sommes faits de la même pâte. Et nous pouvons voir peut-être que Pierre n'avait pas encore tout compris sur le plan général de Dieu pour son fils, donc pour Jésus, mais aussi pour toute l'humanité. Pierre, comme nous sommes humains, nous avons une intelligence limitée et il y a des choses que nous ne pouvons pas encore comprendre. Là, dans ce cas, Pierre, on le connaît bien, très réactif, impétueux, il fonce. Mais nous sommes, je pense, aussi parfois un peu pareil, où nous avons un cœur sincère, où nous voulons servir le Seigneur de manière à fond, comme Pierre. Mais parfois, peut-être, il nous manque ce courage d'avancer dans ces vérités, de croire aussi dans les conséquences de la vérité dans laquelle on est. Et Pierre n'a peut-être pas accepté que Jésus souffre, que Jésus soit humilié, que Jésus meure sur la croix. Mais sauf que Jésus avait bien précisé qu'il mourra, mais qu'il ressuscitera le troisième jour. Il y avait quand même cette espérance derrière. Donc, pour nous ce matin, est-ce que nous pouvons aussi nous dire s'il n'y a pas encore des choses qu'on ne veut pas entendre, des choses qu'on ne veut pas comprendre ou qu'on ne veut pas apprendre, qu'on puisse vraiment laisser Dieu agir en nous, qu'il puisse vraiment se révéler entièrement à nous. Et c'est bien qu'on ait un cœur sincère, nous avons aussi vu ce matin. Voilà, qu'on ait conscience de ce que Jésus a fait pour nous, qu'il est venu sur la terre pour mourir sur la croix. C'était son objectif ultime, c'était nécessaire pour que nous puissions nous-mêmes ensuite avoir le salut et avoir accès au Père. Mais que nous puissions vraiment maintenant aller plus loin, que nous puissions maintenant aussi agir et aussi suivre Jésus. Et c'est pour cela que j'aimerais insister sur le dernier passage du verset 34 au verset 38. Verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Ouch ! C'est un passage qu'on comprend, je pense, rarement, un passage qu'on peut dire un peu impopulaire, qui est un peu dur à avaler. Mais alors, soit on met ce passage aux oubliettes, soit on essaye de le prendre et de voir un petit peu, mais qu'est-ce que Jésus veut vraiment de nous? Et ce matin, voilà, je voulais vraiment insister sur ce passage. Il est un peu dur à avaler, il y a des versets très forts dans ce passage, mais je pense qu'il est aussi important qu'on puisse savoir quel est aussi le plan de Dieu pour nous. Jésus, il est venu sur la terre, il est mort pour nous sur la croix. Il nous a rachetés à un grand prix. Et maintenant, c'est normal, il est digne, il en est digne de recevoir tout notre amour, de recevoir aussi notre révérence, notre obéissance, qu'on puisse marcher avec lui, qu'on puisse le suivre. Et nous allons un peu voir en quelques points qu'est-ce que Jésus nous demande en tant que disciples de Jésus. Le premier verset, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Nous avons, je pense, besoin aussi de comprendre que le chemin du salut, la route qui conduit au ciel, le chemin où Jésus-Christ lui-même a marché et souhaite qu'on y marche également, est un chemin où nous avons aussi à renoncer à nous-mêmes, moi le premier, et là je m'inclus vraiment en premier dans ce que donc, j'aimerais dire ce matin, et que nous soyons aussi prêts à souffrir, mais surtout à vaincre. Se charger de sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas qu'on ait cette impression que se charger de sa croix, c'est quelque chose qui va être insupportable. On a, je pense, tous en tête Jésus qui porte sa croix pour monter sur le calvaire. Il a souffert. C'était lourd à porter. Mais lorsque maintenant nous nous projetons dans l'avenir avec ce que Jésus veut pour nous, ça va nous changer donc complètement cet aspect et cette vision de cette croix que l'on est appelé à porter. C'est choisir de résolument le chemin du rejet, de la souffrance, de la solitude, de la persécution, mais tout cela pour l'amour de Christ. Et il en est digne. C'est peut-être, donc, peut-être dur de penser qu'on ira donc, vers un chemin de souffrance, de persécution, etc. Mais ne regardons pas à cette souffrance de manière négative, à cette persécution. Nous pouvons, bien sûr, aujourd'hui, nous, en tant que Français, dans la France, nous avons encore le privilège d'être préservés de toute persécution, disons, physique. Quand nous pensons aux chrétiens persécutés dans le monde, on pourrait se dire, mais comment moi je vais faire lorsque, un jour, peut-être, la persécution arrive en France? J'ai une amie qui m'a une fois dit, mais Samuel, mais moi j'ai peur, mais jamais je vais arriver à tenir. Mais Dieu, il nous fait grâce. Il nous fait grâce dans n'importe quelle situation où nous nous trouvons. Et ce n'est pas la peine d'anticiper ou d'imaginer la souffrance, d'imaginer aussi notre attitude face à la souffrance, parce que nous n'y sommes pas encore. Et Dieu fera grâce. Il est aussi dit que la grâce surabonde là où le péché abonde. Et nous pouvons encore ce matin donc nous dire et renouveler notre confiance en Dieu, de savoir qu'il sera avec nous. Il nous fortifiera, il nous donnera tous les outils nécessaires, toute la force nécessaire pour tenir bon. Nous n'avons pas à craindre tout cela. Mais simplement être prêt à suivre Jésus, à relever ce défi. C'est un verset qui est, voilà, c'est un passage qui est fort, qui nous remet un peu en question, et moi le premier. Et c'est vrai que bien souvent, on évite la souffrance. On passe par un chemin transverse pour passer outre les souffrances potentielles aussi au niveau du travail. Est-ce que on a aussi peut-être peur de simplement de dire en qui on croit, de partager l'amour de Jésus pour nous, avoir peur d'être viré, avoir peur de perdre des amis, de perdre un peu de notre amour propre. Il faut juste qu'on se dise ce matin que les fruits de cette consécration à Jésus dépassent notre vie terrestre. Notre vie terrestre qui est éphémère, qui est donc limitée. Nous travaillons pour des fruits éternels. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes là ce matin pour écouter ta parole. Nous voulons le suivre, nous voulons donc nous rapprocher de lui. Mais tout cela, c'est dans le but d'être un jour avec lui éternellement. Il faut qu'on puisse vraiment se projeter dans la vie éternelle. Il faut qu'on puisse vraiment travailler dans ce sens-là. Et ne pas garder nos yeux vers la terre, comme nous pouvons voir un peu les animaux de la basse-cour, les poules qui vont toujours picorer les graines qui sont par terre, qui vont manger l'herbe, et qui jamais vont lever les yeux vers le ciel. Prenons plutôt l'exemple sur l'aigle, qui, lui, il s'envole à des altitudes, donc 3000, 4000, 5000 mètres d'altitude. Fixons nos yeux vers le haut, fixons nos yeux vers Jésus, parce que lui nous a tout donné, que nous puissions aussi lui donner en retour notre amour, notre obéissance. Et je vous assure, et là je parle aussi pour moi, que si nous sommes dans cette optique, mais cette croix qu'on va porter, ce renoncement à nous-mêmes, il sera léger comme les ailes d'un oiseau. Parce que Jésus sera là, il nous fortifiera, il nous donnera donc tout ce qu'il faut pour avancer. C'est peut-être pas évident, avec notre vision humaine des choses, de comprendre cela, de nous projeter dans l'avenir. Mais Jésus, là, et on voit bien qu'il parle donc à ses disciples, mais également à la foule qui se trouvait, donc, je pense, près de Césarée de Philippe, donc une foule qui, on peut supposer, était païenne, et donc était dans cette idolâtrie. Mais Jésus, il ose dire les choses de manière franche, de manière cache, parce que cela va dépendre aussi donc, de notre avenir éternel. Ensuite, au verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» On a une fois entendu, donc c'était lors du concert de Héritage, Jimmy Lahaye qui nous avait donné cet exemple, cette remarque, que nous, en tant qu'hommes, hommes majuscules, nous avons une âme dans un corps. Mais nous n'avons pas un corps avec une âme. Est-ce que vous voyez cette nuance ? Nous avons une âme. Certes, notre âme est entourée par un corps corruptible, un corps physique, pour qu'on puisse faire tout ce qu'on a à faire dans notre vie de tous les jours. Mais ce matin, il faut aussi qu'on puisse nous encourager à prendre soin de notre âme. Dans Proverbes, au chapitre 4, verset 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Que nous puissions vraiment garder nos cœurs plus que toute autre chose. Que nous puissions prendre du temps aussi pour lire sa parole, pour être en communion avec Dieu, qu'on puisse le prier. C'est aussi par la parole, par la Bible, par la prière, que, en tant que disciples, nous pourrons avancer, que nous pourrons progresser avec lui. Il pourra nous révéler de plus en plus de choses, par sa parole, par la prière. Que nous puissions vraiment nous amasser des trésors célestes, et non pas regardez donc à tout ce qui nous entoure, nous sommes effectivement dans une société qui va à l'encontre de tous les principes bibliques, qui, on peut dire, voilà, est vraiment anti-biblique. Elle nous encourage à consommer, elle nous encourage dans cette convoitise des yeux, de la chair, dans le pouvoir, toujours avoir plus de pouvoir, toujours avoir plus d'argent. C'est dans le monde dans lequel nous vivons, mais nous devons aussi pouvoir nous séparer de ces choses, que nous puissions dire, écoute Seigneur, ce matin, je veux vraiment te suivre, mettre pleinement ma confiance en toi, et pouvoir vraiment nous transporter, nous projeter dans ce que Dieu a prévu pour nous de manière éternelle, dans cette vie éternelle. Il faut aussi nous dire que cette vie éternelle ne nous est pas réservée uniquement le jour où on sera dans le ciel. Mais cette vie éternelle, elle commence dès maintenant. Dès le jour où nous avons donné notre cœur à Jésus, dès le jour où nous avons abdiqué, où nous avons accepté qu'il prenne le contrôle de notre vie, dès le jour où nous avons décidé de lui obéir et de le suivre, notre vie éternelle commence. Puisque nous avons été crucifiés avec Jésus sur la croix. Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ sur la croix. Et maintenant, nous avons la vie éternelle. Nous ne réfléchissons pas à cette mort physique que nous aurons un jour, parce que cette mort physique, ce n'est qu'une étape. Derrière, nous aurons cette vie éternelle avec Dieu, avec Jésus. C'est une idée qu'on ne répète peut-être pas assez souvent. C'est un encouragement qu'on ne nous dit pas assez souvent. Mais dans ce passage, Jésus il veut vraiment encourager ses disciples, encourager cette foule, à vraiment donc voir l'essentiel, à mettre les bonnes priorités dans notre vie. Où sont nos priorités? À mettre vraiment nos priorités sur Jésus, sur ce qu'il veut pour nous, à lui obéir, à le suivre, même si ça nous coûte de l'amour propre, même si donc, on perd un petit peu de notre relation, de nos relations, mais que nous puissions apprendre à regarder vers les autres, à les considérer au-dessus de nous-mêmes, à peut-être se priver un peu de confort superflu pour plus donner aux autres. Être à l'écoute des autres, c'est important. Être à l'écoute des gens dans le besoin. Et là, je me mets toujours encore à la première place dans ces remarques. Que nous puissions aussi aller jusqu'à donner sa vie pour les autres. C'est ce que Jésus nous demande. Et quand nous voyons tout ce qu'il a fait pour nous, ce matin, nous avons lu dans Jérémie 31, verset 3, que de loin, l'Éternel nous montre son amour éternel. Il nous montre sa bonté depuis toujours. Il nous a aimés le premier. Que nous puissions lui rendre aussi cet amour. Que nous puissions mettre les bonnes priorités. Et à la fin du chapitre, verset 37, verset 38, non verset 38 directement, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Oui, c'est aussi dur ce passage, c'est un peu dur à avaler, que le Fils de l'homme, que Jésus aura honte de nous, mais si nous marchons avec lui, si nous renonçons à nous-mêmes, si nous obéissons aussi à ses commandements, à ce qu'il veut pour nous en tant que disciples, nous n'aurons pas à avoir cette crainte que Jésus ait honte de nous. Automatiquement, on va déborder de joie, on va déborder de ce d'amour pour les autres, et ils le verront. Et notre témoignage, c'est tout d'abord un témoignage d'attitude, de notre comportement, dans notre façon de vivre avec les autres. Et ensuite, il nous donnera des occasions aussi pour parler de lui. Mais que, en premier, nous puissions, de par notre attitude, être aussi des témoins pour lui. Voilà, donc pouvoir partager cet amour qu'il nous a donc donné, le partager aux autres. Il y a donc une histoire que j'aimerais juste vous raconter. C'est donc l'histoire d'un capitaine de garde-côte américain qui avait dit qui était garde-côte au bord des côtes américaines. Et il y avait un fort ouragan. Et dans cet ouragan, il a entendu un signal de détresse d'un bateau qui était pris dans des écueils à 15 km au large. Et donc il annonce à son équipe de dépêcher un canot de sauvetage et foncer vers ce bateau en détresse. Et ses équipiers, ils ont dit non, mais capitaine, nous ne pouvons pas. C'est trop dangereux. Nous allons tous mourir dans cet ouragan. Et donc là, le capitaine, il leur répond, les gars, on n'a pas prévu de revenir. Donc je répète, ces équipiers, ils avaient peur d'aller sur cette mer enragée, cette mer déchaînée. Mais le capitaine leur a dit, les a encouragés en leur disant, les gars, nous n'avons pas à revenir. C'est qu'il avait vraiment ce désir de sauver des gens. Il avait ce désir d'aller porter secours à ces gens en détresse, à ce bateau en détresse. Et il pensait donc d'abord aux autres et ensuite à lui-même. Que nous puissions aussi avoir donc ce désir de parler aussi à ces âmes perdues. Combien il y a encore dans ce monde d'âmes perdues? Et je parle bien d'âmes parce que c'est notre âme le plus important dans notre vie. Que nous puissions avoir ce désir d'aller vers eux, de leur parler, tout simplement. Quand on s'imagine aussi par la suite, qu'est-ce qui va nous arriver, et donc vraiment ce désir peut-être ce changement un peu de mentalité, de ne pas rester cloîtré dans notre propre vie, disons de confort. C'est vrai que nous avons ce grand privilège en France d'avoir une vie de confort, mais que nous puissions porter notre regard vers les autres, vers ces gens qui ont soif de l'Évangile, mais qui n'ont peut-être pas encore entendu, que nous soyons des lumières, tout simplement des lumières, peut-être même sans parler, mais des lumières dans ce monde. Voilà, que, en conclusion, que cette exhortation de Jésus mais puisse être vraiment un booster pour notre vie, et non pas un frein, non pas une peur. C'est vrai que c'est un passage qui n'est pas évident. Et voilà, j'ai un peu pris le risque de le prendre ce matin, parce qu'on le prend rarement, et c'est aussi important de savoir qu'est-ce que Jésus veut pour nous, qu'est-ce qu'il veut de nous, en tant que disciples. Et que ça puisse vraiment nous encourager à nous rapprocher de lui, avec joie et confiance, pas avec crainte. Bien sûr, crainte donc, au niveau de notre obéissance, de notre soumission, mais pas avec peur, ou de dire « j'ai peur de souffrir, qu'est-ce que je vais faire ?» Si je suis prêt à suivre Jésus, à relever ce défi, qu'est-ce qu'il y aura derrière? Il y aura des souffrances? Non, non. Ne pensons pas à cela. Jésus nous donnera donc les forces, nous donnera à chaque fois les paroles, les attitudes à propos, en fonction de ce qu'on pourra vivre par la suite. Et je vous assure qu'il pourra nous montrer dans ce cas-là tout son amour, sa fidélité. Et je pense que vous l'avez déjà tous vécu dans votre vie, des situations où vous avez vu le secours de Dieu, où vous avez vu Dieu concrètement agir dans votre vie, où vous étiez en détresse, où vous ne saviez plus quoi faire, où vous saviez que vous étiez sur le bon chemin, mais que tout allait mal quand même à côté, au niveau peut-être d'injustice, de disputes, de querelles, de moqueries, ou bien d'autres choses. Mais sachons que Dieu, il nous portera à chaque fois secours. Il ne permettra jamais que l'on soit éprouvé au-delà de nos forces, dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Un dernier passage pour terminer, c'est dans 1 Philippiens 3, du verset 12 au verset 14. Un passage vraiment pour nous encourager à aller de l'avant. Donc c'est Paul qui parle. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours. Donc soyons aussi remplis de cette motivation de courir avec Jésus. Pas de stagner, d'hésiter, de clocher d'un pied ou l'autre, mais vraiment courons. Courons avec Jésus dans ce qu'il a prévu pour nous. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que nous puissions vraiment courir dans cette carrière que Dieu a ouverte pour nous. N'ayons pas peur. Dieu, il sera là. Que nous puissions vraiment réfléchir à ce passage, ne pas prendre peur dans ces paroles dures de Jésus, mais que voilà, nous fassions tout simplement confiance, que nous soyons tout simplement obéissants dans ce qu'il veut pour nous. Et il nous bénira, il permettra qu'on puisse porter des fruits qui seront projetés dans notre vie éternelle avec lui. Amen.